Dans le passage qu'on vient de lire, il y a deux personnages qui ne vont jamais se rencontrer et qui pourtant, pour cette narratrice, Myriam, sont deux personnes importantes. Nour, qui est cet homme dont elle est très amoureuse et qu'elle retrouve là, à Beyrouth. Et puis Nahil, la grand-mère, qui est une femme très importante. Et on parlera beaucoup des femmes là tout à l'heure pour voir ce qu'il en est au Liban, mais peut-être chez nous aussi. Et il n'y a apparemment rien de commun entre ces deux personnages,
oui.
Mais quelle place ont-ils chacun? Quel lien peut-on faire en Myriam?
Oui, Myriam, elle devait partir de Liban parce qu'elle a perdu son frère dans le bombardement, à cause de bombardement. Et elle devait partir avec sa mère qui a devenu muette et son père qui a été aussi blessé et elle a devenu mi-fou parce qu'il y avait un
éclat de...
dans sa tête. Donc ils sont partis pour l'Australie où le frère de sa mère vit. Et la grand-mère a refusé d'aller avec eux. Elle n'a jamais voyagé. Elle disait, moi, je peux imaginer l'univers, le monde où je suis. Je ne veux pas aller. Donc, elle a resté dans le village, malgré qu'il y avait la guerre. Et dans ses voyages, Myriam, le personnage principal, la femme, elle a rencontré un homme anglais. Elle se mariait avec lui. Mais le mariage était... Comme si elle paye une dette pour lui parce qu'elle était un médecin et c'est lui qui a poursuivi la situation de son père. Il n'y avait pas de l'amour, c'était un mariage
de convention.
Oui. Quand elle est revenue après la guerre, elle est revenue pour elle a reçu une lettre de le ministère de déplacés que leur maison qui a été occupée par des déplacés est vide maintenant, elle peut le récupérer. Et elle a revenu pour récupérer cette maison, elle a rencontré Nour dans l'avion, dans l'aéroport, et il y avait une relation a commencé entre eux. Et ce n'est pas par hasard que l'amour a commencé dans un non-lieu, parce que Myriam aussi, elle est nulle part. Donc, la situation merveilleuse est d'aimer dans un avion ou bien dans un aéroport. Tandis que Nahil, elle est très racinée. Nahil ne veut pas bouger. Elle reproduit les valeurs sociales, malgré qu'elle était forte, malgré qu'elle imposait ses idées dans la famille. Mais en même temps, elle a reproduit les valeurs des hommes de la société.
Oui, la grand-mère, quand on lit le roman, la grand-mère Nahil, la difficulté que les femmes ont à vivre, les lois qui ne sont vraiment pas favorables aux femmes, elles perpétuent. Et
oui.
On se dit que les femmes oppriment les femmes.
Exactement. Nahil, elle représente... Elle a un caractère très compliqué. On ne peut pas dire qu'elle est conservatiste, on ne peut pas dire qu'elle est une femme libre. Elle joue entre les deux. C'est elle qui a commencé une école pour les femmes dans le village. Et quand les hommes ont dit « Mais non, les femmes ne doivent pas apprendre à lire et à écrire », elle a dit « Mais je leur enseigne comment écrire le mot « coudre ». Comment écrire le mot « faire la cuisine », mais pas plus que ça. Donc, elle était très intelligente. Détourner contre les valeurs de la société, mais en même temps, elle a reproduit une autre part, les valeurs de la société. Donc, elle a les deux.
Peut-être qu'une génération ne pouvait pas tout faire.
Oui, parce que quand son petit-fils était mort, elle ne voulait pas que la maison
revienne à sa petite-fille.
À sa petite-fille, parce que la maison, ça veut dire, c'est la maison d'un homme. Ça veut dire que la maison doit toujours porté le nom d'un homme. Donc c'était une guerre intérieure dans elle-même. Nahil, qu'est-ce qu'elle doit faire?
Est-ce que tu peux nous éclairer, parce qu'on en parle depuis le début de ce banquet, d'une façon synthétique, sur le droit et en quoi, par rapport à la France, par exemple, les femmes n'ont pas les mêmes droits? Pourquoi dit-on que les femmes au Liban n'ont pas
de droits? Moi, je parle d'une famille de la montagne où j'étais née. Donc, il faut pas oublier ça. Je ne parle pas d'une famille de Beyrouth. Par exemple, il y a des familles dans des grandes villes au Liban que la femme peut héritier comme l'homme. Mais dans la montagne, c'est dans ma communauté, c'est très rare que la femme hérite.
C'est quoi, c'est ta communauté?
Oui.
C'est
les Druzes.
C'est les Druzes.
C'est très rare, malgré que théoriquement, la communauté druze, théoriquement, historiquement, ils sont considérés une partie de l'islam, mais en pratique, ils ne sont pas musulmans. Donc, ils ne peuvent pas se marier plus qu'avec plus qu'une femme, les hommes. Et il y a les testaments. Donc, tandis que chez les musulmans, il n'y a pas un testament. Il y a le chara. La femme hérite la moitié d'un homme. Chez nous, il y a le testament et le père peut écrire tous ses héritages à son fils. Et la fille ne peut pas constater. C'est la loi. Et dans ce roman, la grande mère qui reproduit ces valeurs que la femme ne doit pas héritier, il voulait que son fils, à l'âge de 55 ans, même plus, se remarie avec une autre femme pour avoir un garçon. Mais dans la communauté druze, un homme ne peut pas
avoir plusieurs femmes.
Avoir une deuxième. Donc c'est un problème pour elle. Comment résoudre ce problème?
Oui. Ben, elle le résout d'une drôle de façon, hein. On ne va pas le dire.
On va voir.
Donc, en ce qui concerne le statut des femmes, c'est différent en fonction des communautés et des religions.
Oui, parce que je crois que Randa a dit quelque chose à propos de ça, que tout ce qui est lié, mariage, héritage, naissance, même la mort, est lié au tribunal religieux, pas au code civil.
Donc, il n'y a pas une unité au Liban quant à cette pratique-là. Ça n'est pas...
Non, bien sûr. Quand quelqu'un est mort, c'est le tribunal de la
communauté.
La communauté qui,
dans tous les livres là, des auteurs que nous recevons là, ces jours, en particulier chez les femmes, et je pense à toi, mais aussi à Yamared et à d'autres, il y a un féminisme très fort qui s'affirme contre ces pratiques et pour une liberté et une indépendance surtout. Mmh. Et là, on le voit dans le... Est-ce que c'est possible, donc, aujourd'hui? Comment on...
Moi, dans cet âge, maintenant, peut-être quand j'avais 20 ans, je croyais qu'on peut faire la révolution et changer. Maintenant, je crois profondément qu'il faut travailler sur le niveau de loi. Si on ne change pas la loi... lié à la situation de la famille, pas seulement la femme, de la famille, on ne fait rien. Et c'est aussi lié à la politique, mais je ne veux pas parler de la politique maintenant. On peut parler seulement de situation familiale.
Oui.
Héritage, naissance, mariage, nationalité. Aussi, Randa a mentionné ça. La mère ne peut donner pas la nationalité à ses enfants ni à son mari si elle n'était pas libanais. Et le but, le travail doit être sur le niveau de la loi.
On en est loin.
On est très loin, bien sûr, on est très loin. Oui.
Tu me disais, les femmes perdent leur nom quand elles se marient. C'est un peu le cas en France, mais en France, c'est un usage. La loi, cependant, les femmes gardent le nom de leur père, finalement. Mm-hmm. Hein. Mm-hmm. Mais là, toi, tu dis, on perd vraiment son nom. Et quand on divorce, on a à choisir à retourner légalement dans le clan de ses parents, oui, ou à rester dans le clan de son mari avec ses,
oui,
enfants.
Oui.
Ça, c'est très étrange. C'est-à-dire qu'il nous manque, un troisième lieu, qui serait le lieu de l'indépendance. C'est-à-dire qu'une femme ne peut, si elle vit seule, elle est forcément rattachée légalement dans ses papiers à...
Oui, je crois que c'est un problème plutôt politique. C'est un problème qui a deux parties. Parce qu'elle est une femme. Et deuxièmement, c'est un problème politique lié au confessionnalisme au Liban. C'est très difficile de changer votre casier...
judiciaire ?
Non, pas judiciaire. État civil. C'est très difficile. Moi, j'étais née à Aïn Anoub. C'est très difficile si je décide un jour que je veux être à Beyrouth, parce que j'ai vécu à Beyrouth pour les dernières 30 ans, mais je ne peux pas participer dans la décision, même sur le niveau municipal. Je dois toujours être liée à mon village où je ne visite pas sauf deux fois par année. Ça, c'est un problème politique. La femme a un problème double. Je ne peux pas être un citoyen de Beyrouth légalement. Où je vais, je suis druze, donc où je vais, sous quel numéro je serai. Et j'ai essayé, quand j'ai divorcé, j'ai essayé d'être beyrouthienne, parce que Beyrouth, c'est une ville qui vraiment, il y a encore de l'espace d'exprimer votre citoyenneté, tandis que dans des villages périphériques, c'est difficile. Dans des villages, il faut être une partie de clan. Mais je ne pouvais pas.
Pour continuer la réflexion sur, là-dessus, je vous lis un passage donc, de ce dernier livre, D'autres vies. Tu nous liras un tout petit peu en arabe pour le... C'est page 30, c'est au début. C'est pourquoi nous... Pourquoi vous embêtez à chercher vos racines? Je peux vous en donner autant que vous voulez. Moi, j'en ai trop. Et je veux m'en débarrasser. Il ne s'attendait pas à une réponse de ce genre. Et je n'avais pas, moi non plus, pensé à ce que j'allais dire. La phrase était sortie toute seule. Peut-être venait-elle d'une pensée stérile et déroutante qui avait poussé, nourrie par mes déplacements forcés entre le Liban, l'Australie et l'Afrique. Les racines sont une chose que l'on reconstruit, dont on change complètement la nature, comme on accommode la nourriture, les puissances selon nos désirs. Durant la conversation, une complicité tendue et immédiate naquit entre nous à partir de phrases échangées et d'un rire léger qui nous éleva doucement en apesanteur.
C'est très long. Je
vais
lire.
Juste peut-être le début.
Oui, oui.
Ce que dit. Pourquoi...
Oui, oui, d'accord. لما عنا البحث أستطيع إعطائك قدر ما تريد. لدي فائض من الجذور وأريد التخلص منها. لم يكن ينتظر إجابة مشابهة ولم أكن بدوري قد فكرت بما سأقول. بل خرجت جملتي دون إرادة مني. Oui, le thème de Racine, c'est très...
C'est surprenant. Quand tu dis les racines sont une chose que l'on reconstruit, oui, on a du mal quand on pense aux racines d'un arbre, par exemple, parce que le mot racine, c'est quand même d'abord quelque chose de très concret, assez végétal.
Mais il ne faut pas.
Moi, j'ai cette image quand j'entends le mot racine, et les racines sont quelque chose que l'on reconstruit. En effet, bon, on peut tailler les racines d'un arbre ou d'une plante et puis le replanter, ça marche. Mais c'est très étonnant, cependant. Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, où en fait les lois nous empêchent de reconstruire nos racines, puisqu'il faut absolument faire partie d'un clan, et que même quand on divorce. Voilà. Et là, elle affirme les racines.
Mais il ne faut pas oublier l'itinéraire de la vie de Myriam.
Voilà, alors oui, c'est Myriam qui.
Oui, et les racines, elle a quitté un pays en guerre, et parmi les causes de cette guerre, c'était les racines. Donc, elle est antagoniste avec les racines. Automatiquement, elle est en antagonisme. Les racines de chaque communauté qui gonflent leur identité communautaire nous amenaient à détruire notre pays. Donc, je comprends quand Myriam dit ça, que les racines, on peut rire.
Reconstruire
les racines. Alors, et pour moi, vraiment, personnellement, je vois les racines comme. C'est comme la mort pour moi.
C'est comme la mort
parce que. Et quand je voyageais en Australie, j'ai vu la communauté druze en train de construire leur tombe. Ils ont acheté un grand terrain à Adélaïde, où il y a beaucoup de druzes. Ils ont construit des tombes. Et pour moi, comme s'ils reconstruisent leurs racines en Australie. Parce que la tombe, quand on construit une tombe, ça veut dire qu'on confirme notre racine. Je vois les choses comme ça.
Et quand Myriam dit qu'elle a trop de racines, c'est aussi étonnant, parce qu'on peut aussi avoir des personnages dans la littérature qui n'ont plus de racines, qui cherchent leurs racines et qui souffrent de ne plus avoir de racines. Et là, c'est le contraire, il y en a trop.
Oui, elle est contraire de Nour. Malgré qu'elles sont contraires, elles ont l'un aimé l'autre. Malgré cette contradiction dans leur caractère.
Je me dis aussi peut-être que reconstruire ses racines, c'est peut-être l'écriture, ça. C'est l'écriture peut-être qui refait l'histoire au sens, dans tous les sens. C'est-à-dire
pourquoi il faut parler de racines. La vie, c'est un chemin.
Oui.
Le chemin, c'est l'écriture.
Oui.
Pourquoi je dois regarder le passé et construire ma race? Je m'en fous pour moi, pour la race. Vraiment, je m'en fous. Et quand je suis aux États-Unis ou quand je suis à Paris, je ne parle pas de racines. Je parle de ma famille que j'aime. Je parle de les souvenirs que j'ai eus dans le jardin de mon père. J'aime par exemple le fèvre. J'adore le fèvre. J'ai vu le fèvre ici, je me suis dit waouh, elle mange le fèvre cru comme chez nous. Pour moi, c'est plus important que la racine, les petites choses qui me fait se souvient des moments très jolis dans ma vie. L'écriture, c'est la racine. Non, l'écriture, c'est d'être, c'est l'être. L'écriture, c'est to be, d'être.
Être. Un autre passage.
Et dis-moi seulement le page.
Attends, faut que je revoie. Tri, justement, on a. Sur la patrie, je me souviens.
99,
oui.
Je crois qu'on a lu ça.
Je trouve le passage là. La notion de patrie par rapport aux racines.
Oui.
Est-ce que la patrie, ça existe?
Pour moi.
Mais pour les personnages, ils sont en but avec cette idée-là.
Si je veux parler de personnage principal, Myriam, pour elle, elle retourne pour faire le compte avec la patrie et avec le passé, avec la mort de son frère, avec les idées de sa grand-mère, les valeurs de la société. C'est où le patrie, c'est quoi? Moi, ce terme, je ne suis pas à l'aise avec ce terme, ni avec le racine, ni avec le patrie. Ça veut dire quoi, le patrie? C'est mon pays, d'accord. La langue, et quoi encore? C'est la mémoire, pour moi, la patrie.
La mémoire.
Oui, c'est la mémoire. C'est la mémoire de mon enfance, des gens que j'aime. Mm. J'ai commencé à avoir une patrie chaque fois que je viens à Paris. Mes voisins, mes amis, mes deux filles qui font leurs études en France. Mon laptop, c'est mon patrie quelquefois. Ma langue, ce que j'ai écrit.
Et voilà ce que tu dis aussi. Beyrouth est alourdi de douleur. Mais peut-être Olga a-t-elle raison. À quoi bon la mémoire? Que viennent les vagues de la mer pour tout laver, tout emporter, les histoires du passé, la rancune et la haine. Ça, c'est la grande lessive là, de la mémoire.
Oui, oui, la mer, si la mer vient, ce sera merveilleux.
Oui. Là, un passage qui me poursuit depuis que j'ai lu ce livre et là que je l'ai relu. Et tu parlais de la mort tout à l'heure. Et là, il s'agit de départ, et tout simplement de quitter un pays. Mais en français, quand on dit « il est parti », parfois ça veut dire « il est mort ».
Oui.
Lorsque nous partons, nous vivons une petite mort. Nous mourrons en paix. Nous devons également partir en paix. La séparation n'est pas seulement une petite mort. C'est aussi un retour à nous-mêmes, après nous être oubliés dans le flot de la passion. Et là, c'est un départ amoureux.
Oui.
Et donc, le départ, c'est revenir à soi-même. Et là, c'est le départ, c'est un départ amoureux, c'est-à-dire on quitte la passion pour en revenir à soi, la passion où on s'est perdu.
Oui, le départ toujours, c'est revenir en soi-même, surtout quand vous quittez derrière vous un clan et une famille et une communauté où il n'y a pas un espace pour l'individu. Et c'est la solitude, c'est être en face de nous-mêmes, c'est de penser de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on... notre valeur réelle, pas ce qu'on a hérité.
Pas celle que nous donnent les autres, mais
qu'on a construit.
Qu'on a construit soi.
Oui. Et c'est un petit mort aussi en même temps, parce que pour arriver à ce niveau, beaucoup de choses doivent partir de toi.
Tout à l'heure, dans la table ronde, ce matin, certains des intervenants disaient que en France, il y a beaucoup d'individualisme et qu'au Liban, il y a plus de chaleur et de relations. Moi, je n'étais pas tout à fait d'accord avec ça. Mm-hmm. Et là, ce que tu viens de dire, c'est en revenir à soi. Est-ce que c'est l'individualisme ou est-ce que c'est autre chose?
C'est de sentir les choses liées à ton expérience, pas à l'expérience collective. J'ai une expérience avec la guerre qui est tout à fait différente de l'expérience de mon père. Par exemple, quand la guerre a déclenché, je me rappelle très 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 bien que j'étais toujours en dispute avec mon père à propos de la guerre. On a vécu les premières 2 ans de la guerre tout à fait différemment. Parce qu'elle est plus liée à la communauté. Moi, j'étais avec les gauches, avec les gens qui ont rêvé de changer le régime, le système. Et donc, toujours, toujours l'expérience est individuelle. Et c'est ce que je voulais dire le roman.
Pourtant, on est bien chacun de nous le produit d'une histoire, d'un contexte. On ne peut pas le nier, ça.
Ah non, bien sûr. On ne peut pas nier. Mais
c'est ça l'expérience, peut-être.
on ne peut pas le nier, mais on le voit, on l'exprime différemment. Et ça, c'est important, comment exprimer notre expérience.
En lisant tes livres, je me disais, pour qui est-ce qu'on écrit ? Quand tu écris, pour qui écris-tu ? Est-ce que tu dédicaces tes livres ? Ils sont parfois,
oui. Là,
pas toujours dédicacés. Pour qui ? Est-ce qu'on a un destinataire secret ?
Est-ce que... Non. En fait, j'ai une expérience différente avec chaque roman. Je me rappelle quand j'étais en train d'écrire le premier roman, c'était même je savais pas que c'était un roman. Je croyais que je faisais sortir la douleur de la guerre, parce que j'ai vécu la guerre, donc c'était comme exorcisme. Et à la fin, j'ai réalisé que ça peut être un roman. Et avec le deuxième roman, c'était comme j'ai continué la recherche que j'ai commencé avec le premier roman a fini avec une question pourquoi la guerre, pourquoi la violence. Et avec le deuxième, c'était une recherche dans l'histoire, dans le passé de ma communauté, de essayer de comprendre pourquoi la violence est née chez nous, pourquoi dans un moment, mon voisin a tué le troisième voisin pour une raison banale, parce que les deux ne sont pas de la même communauté pendant la guerre, malgré qu'ils étaient vraiment amis. Et c'est une grande question que jusqu'à maintenant, je ne comprends pas. Comment cette violence sort dans un moment historique qu'on ne peut pas décrire. Et ça est devenu plus en plus professionnel avec le troisième. Je me suis dit, maintenant, je vais écrire un roman. Et dans ma tête, s'il y a un lecteur, je ne sais pas, vraiment, je ne sais pas. Dans le deuxième, j'avais peur que ma famille va lire le roman. Je ne voulais pas absolument que ma famille lise le roman, parce que je parlais de mon grand-père, qui était très féodal. Et très harsh, elle était très dure, très très dure. Je voulais me cacher quand je publiais le roman. Je parlais de la communauté aussi. Mais maintenant, je suis plus à l'aise et je me suis dit, je m'en fous qu'il lit mon roman. Peut-être à tout le monde, j'écris. Sans penser si les gens vont aimer ou pas.
C'est une liberté, ça.
Oui.
Alors, tu as pris aussi une autre liberté, et tu joues avec les prénoms des hommes tout le long de tes romans.
Ah oui. Ça, c'est un secret, il ne fallait pas. Dans d'autres vies, j'ai utilisé le nom de... Dans la communauté druze, dans leur foi, il y a 5 prophètes, 5 seigneurs, et j'utilisais les prénoms de 3. Et c'était un jeu pour moi, seulement de leur rendre humain au lieu d'être sacré. Il y a Hamza, Baha et l'autre, le troisième Salama. Ce sont 3 noms, 3 prénoms parmi les cinq seigneurs dans la religion. Dans le bouquin qui s'appelle le livre de sagesse. Et c'était un jeu comme ça.
C'est un jeu, et c'est vrai que la recherche des prénoms quand on écrit, c'est pas anodin en même temps. C'est un jeu, tu le dis en souriant, donc c'est un clin d'œil d'humour pour casser le sacré, oui. Mais en même temps pour le réhabiliter, c'est-à-dire pour rendre humain, pour en parler quand
oui,
même.
Oui, parce que les 3, ils ont des fautes, ils ne sont pas parfaits. Ils trichent, ils mentent, ils reconstruisent leur identité dans des façons pas très correctes. Et j'ai aimé ça. Je donnais des prénoms, des dessins. Ce sont des saints, le 5 Seigneur.
Ce sont des saints, oui.
Oui, et c'est bien qu'on joue avec les saints.
Et que les hommes soient des saints.
Oui,
c'est bien. Peut-être dire un mot de ton prochain livre, donc qui est sorti en anglais. Là, ça y est.
Oui.
Hein, en arabe, il va sortir.
C'est pas autre d'autre vie. C'est le 50 grammes de paradis.
50 grammes de paradis, oui, dont je voulais parler, qui va sortir en 2017
oui,
chez
français.
Vertical en français, donc qu'on pourra lire. Et c'est 50 grammes de paradis.
Mm-hmm.
Donc il y a, semble-t-il, on ne sait pas encore si c'est vraiment le titre en français.
Je ne crois pas, non.
Ce ne sera pas le titre en français parce que ça pose un peu de problème en français, apparemment.
En anglais, elle a changé aussi.
Ils
ont changé le titre.
Et en arabe, c'est 50 grammes de
paradis. 50 grammes de paradis, oui. Et j'aime beaucoup ce titre. C'était prévu que le roman sort avec un titre, Les lettres d'Istanbul, mais... La dernière écriture de roman, c'était 2 mois avant que j'ai envoyé le manuscrit à la maison d'édition. J'ai changé parce qu'il y avait un dialogue dans le roman entre quelqu'un qui fabrique le parfum et un homme qui était un passant et le vendeur de c'était Akhan Khalil au Caire. Le vendeur a demandé au monsieur qui passait, do you want 50 grams of paradise, sir? He spoke to him in English. Il a parlé en anglais. Et il a utilisé le mot gramme, tandis que parfum, on dit millilitres. Mais je voulais garder. Comment elle a dit la phrase.
C'est très beau, elle est très belle, cette
phrase. Oui. Et le nom de parfum, c'était Paradis.
Paradis. Donc, et voilà.
Ouais.
Donc c'est un livre qu'on va lire. Hein. Tu peux nous en dire quelques mots. Ça se passe entre Beyrouth et Damas, entre deux femmes.
Oh, plus Beyrouth, Damas, Paris et Istanbul. Mm. Quatre villes que j'adore.
Sur une période...
Entre 78 et 94.
Voilà. Oui, donc c'est une période de guerre.
Et après-guerre, juste après-guerre. Oui. Oui. Et c'est à propos d'une femme libanaise dans ses années. Elle a 40 ans, 45 ans. Elle était mariée avec un Libanais à Paris et dans un moment, les deux décident de divorcer. Mais le moment qu'ils décident de divorcer, le mari tombe malade en cancer et là seulement 6 mois, elle va mourir. Donc elle reste avec lui et elle revient au Liban quand le mari est mort. Et là-bas, elle travaille dans une compagnie qui reconstruit le centre-ville de Beyrouth après la guerre. Elle travaille comme réalisateur d'un film, documentariste. Et dans son travail, elle trouve une valise qui est pleine de photos, des lettres. Et elle se met à la recherche de connaître les propriétaires
de la valise.
De la valise. Et ça, c'est l'histoire. Et cette recherche, c'est okay, un prétexte parce que c'est la recherche de sa vie, d'elle-même.
De ses racines
Non. Il n'y a pas de racines, pas du tout. Non, c'est... Tu vas lire le roman quand il sort. C'est recherche pour l'amour, c'est plus important.
Pour l'amour.
Ouais. C'est plus important que la racine.
Peut-être que pour terminer, j'ai envie de parler de... Si tu peux nous raconter un petit peu donc ce livre. Alors là, qui est, tu es plutôt l'éditrice, là. Tu as fait un travail d'éditrice, Beyrouth Noir.
Non, pas éditrice. Éditrice, c'est un autre sens en français, éditrice.
Oui, alors là, c'est parce que c'est en anglais. Donc
edited. Je ne sais pas s'il y a un mot en français qui s'appelle, qui dit edited.
Alors c'est quoi c'est, qu'est-ce que...
Edited, c'est qui a l'idée, qui rassemble les textes, qui
éditrice.
Ah d'accord. Mais je sois.
Tu as eu l'idée, tu as rassemblé les textes
oui.
de plusieurs auteurs.
Oui.
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 Donc et ça s'est édité à New York.
Publié à New York.
Publié à New York.
Oui.
Et ça s'appelle Beyrouth Noir.
Beyrouth Noir, oui.
On a des textes de plusieurs auteurs dont on a parlé tous ces jours. Iyam Ared, Najwa Barakat, Abbas Beydoun.
Rawi Haj de Canada.
Rawi Haj, voilà.
Oui.
Et donc, et c'est en plusieurs langues.
C'était en plusieurs langues. Comme vous savez maintenant, le Liban a 3 langues, français, anglais, arabe. Donc j'ai choisi des écrivains qui écrivent dans ces trois langues. Riyam Yared, elle écrit en français. Rawi Haj écrit en arabe. Najwa Barakat, non, Rawi Haj écrit en anglais et Najwa écrit en arabe. Donc c'était un petit Liban littéraire.
Quelle est la commande que tu as passée à ces auteurs? Qu'est-ce que tu leur as demandé?
Une nouvelle qui ne dépasse pas 6000 mots.
Voilà. Et sur aucun thème précisément.
Sur la ville.
Sur la ville de Beyrouth.
Oui,
hein, parce que c'est Beyrouth noir.
Ça s'appelle Beyrouth noir. Sur la ville et sur aussi the underground de Beyrouth. C'est pas.
Caché.
Oui, c'est Beyrouth caché. Donc, ce ne sont pas des nouvelles que tu peux lire chaque jour. Ce sont un peu noirs.
Un peu noirs.
Oui. Mais pas des nouvelles des crimes.
C'est pas du roman noir,
non,
comme on dit en
parce
France.
Parce que le mot
noir oui.
C'est ambigu un peu.
On pourra le lire en français? Est-ce que ça va sortir en français?
Dans une année, oui. Mm. Oui, et ça va sortir en français.
Et la couverture est très belle. C'est une photo qui est d'un photographe dont je vous ai parlé hier, qui s'appelle Samer Modad, et qui est un grand photographe du monde arabe. Et là, on a une magnifique photo. J'espère que l'édition française
vont garder
cette photo-là.
J'espère.
Moi, je voulais saluer aussi ce travail-là, parce qu'un écrivain qui est tout seul avec son écriture, c'est formidable pour nous, mais qui réunit aussi d'autres auteurs et puis qui travaille pour
d'ailleurs, ce n'est pas mon première expérience de réunir des écrivains. Je préparais un livre en 2010 sur l'écriture elle-même, comment écrire. Et j'ai demandé à 7 écrivains libanais de témoigner comment ils écrivent. Et elle s'appelait en arabe Kitaba tel Kitaba. Si je veux traduire, c'est écrire l'écriture. Comment écrire l'écriture? C'est mot à mot, traduction. Et j'aime ce travail. J'aime travailler en groupe avec des écrivains.
Alors, tu peux nous parler un petit peu du Pen Club?
Oh, d'accord.
Juste quelques mots.
J'espérais que Riyam Yared soit avec nous, parce que c'était l'idée de Riyam Yared de fonder un club libanais qui s'appelle Pen Club. Et on a commencé en 2012 à contacter les écrivains. Et Pen Club a été né en 2013. Elle est un bébé, elle n'est pas très active comme on veut. Parce que dès qu'on a fondé ce club, tous les problèmes de la série a commencé. Mais maintenant, on a une série de lectures théâtrales pour des écrivains libanais, arabes et internationaux. Et le mois de novembre, on va recevoir 4 écrivains internationaux à Beyrouth. Et on a choisi des femmes écrivains qui viennent de l'Afrique. Et ce n'est pas très
commode.
Non, pas commode. Commun. Ce n'est pas très commun de recevoir des écrivains femmes noires à Beyrouth.
À Beyrouth.
Et il y a 3 femmes qui viennent de l'Éthiopie, de Zimbabwe et de Grenade. Qui vont venir au Liban avec un seul écrivain de Netherlands, Pays-Bas, de parler de racisme, ce qui est très important, de parler de ce et des voix des femmes, de situation des femmes pendant la guerre. Et je choisis ces 3 femmes écrivains parce que les 3 sont des survivals. Sont vraiment, elles ont vécu la guerre dans leur pays et elles vont communiquer avec nous, connecter avec nous, écrivains au Liban, et de nous raconter leur expérience avec la violence. Et ce sera le mois de novembre. Et hier, je parlais avec Jabour. Il va recevoir les écrivains à Aden dans leur tour au Liban.
Bon, donc on va se retrouver au Liban en novembre pour tout
Allons, vous êtes le bienvenu.
Bon, je vous... Merci beaucoup, Imane. Merci d'avoir parlé en français. Merci.